16 avril, ici Maxime Lachance, voici les nouvelles. Les attentes des conservateurs face au budget fédéral qui sera présenté cet après-midi sont bien basses. Dans un événement à saveur électorale ce matin, en compagnie de ses députés, le chef conservateur Pierre Poilievre a exprimé des doutes sur la possibilité que le gouvernement Trudeau hausse les impôts pour les plus fortunés. Comme certains médias le rapportent, M. Poilievre a fait valoir qu'il s'agissait d'une vieille promesse des libéraux.
Il a promis exactement ça en 2015. Il ne l'a pas fait. Après 8 ans, c'est les pauvres, c'est la classe moyenne, la fameuse classe moyenne qui paye plus après 8 ans de Justin Trudeau, avec des politiques inflationnistes qui ont gonflé le coût de logement et de nourriture sur le dos des moins nantis.
Gabriel Nadeau-Dubois estime que le chef péquiste Paul Saint-Pierre Plamondon a tenu un discours conservateur et empreint de ressentiment sur l'indépendance la fin de semaine dernière. Lors d'un discours au terme du Conseil national de son parti, Paul Saint-Pierre Plamondon a dit que le Parti québécois tiendrait assurément un référendum avant 2030, qui, selon lui, serait probablement celui de la dernière chance face à ce qu'il décrit comme la menace du gouvernement fédéral. Gabriel Nadeau-Dubois ne s'est pas reconnu dans ce discours.
Mais de professer comme ça une date de péremption, une date d'extinction en disant « si vous ne suivez pas mon plan de match, par la suite, c'est terminé », je pense que c'est un discours qui va éloigner beaucoup de gens. Est-ce qu'on va rallier notre génération et encore plus les gens plus jeunes que nous avec un discours comme ça?
Les adolescents sondés se portent mieux qu'au cours de la pandémie et une diminution du temps d'écran est observée, a constaté la Direction de santé publique de Montréal. Une première consultation des jeunes avait eu lieu en 2021 et la dernière a eu lieu en 2023. Jean-François Biron est chercheur à la Direction de santé publique de Montréal. Les résultats démontrent qu'il est possible d'avoir un impact positif sur l'utilisation du temps d'écran, selon lui.
Puis c'est encourageant parce que les jeunes, pendant la pandémie, il y en avait 2 sur 5 là, qui nous disaient qu'ils étaient tannés des écrans, là, carrément. Et puis là, ça allait baisser. Donc, ils sont moins tannés, ils en font moins un peu. Donc, ça veut dire qu'on a différents leviers et puis que les jeunes sont conscients de ça. Donc, moi, je pense, je suis plutôt optimiste là, sur le fait qu'on peut intervenir pour, disons, diminuer l'utilisation intensive.
Transport scolaire, les membres du syndicat des travailleurs des autobus Idéal, CSN, ont déclenché une grève ce matin. L'arrêt de travail est prévu jusqu'au 28 avril. 10 000 écoliers de Montréal et Laval sont touchés. Les 165 chauffeurs réclament leur part de la bonification des contrats avec Québec, obtenue par leur employeur en août 2002. Josée Dubé, présidente du secteur transport scolaire à la FEP SPCSN.
Et bien sûr, un coup que la mesure d'équilibre a été installée, ils font tout en leur pouvoir pour négocier le plus serré possible et garder l'argent pour eux, parce qu'eux considèrent que ce surplus-là leur revienne.
La ville de Copenhague a perdu ce matin une partie de ses immeubles historiques les plus connus ravagés par un incendie ce matin. L'ancienne bourse de Copenhague, qui date de l'an 1640, était reconnaissable par son emblématique flèche. Les Danois la comparaient à celle de Notre-Dame de Paris, qui s'est aussi effondrée dans un incendie. La flèche de la bourse de Copenhague, haute de 54 mètres, est tombée devant une foule qui s'était massée sur les lieux de l'incendie. Les causes du brasier ne sont pas encore connues. Et dernier match de la saison pour le Canadien ce soir face aux Red Wings. Le jeune défenseur du Rocket de Laval, Logan Mailloux, a été rappelé par le club et effectuera ses débuts dans la Ligue nationale. Le Canadien s'est aussi entendu avec l'un de ses espoirs, l'attaquant Luke Tuck.
CFIX FM 93 est là pour vous. Que vous ayez besoin de personnel ou simplement de parler de vos prochaines promotions, vous êtes à la bonne place. Acheter de la publicité dans une radio parlée, ça marche. Demandez à nos clients. Lorsque vous souscrivez un plan de publicité à CFIX FM 93, vous avez accès à bien plus qu'une simple publicité. Chez nous, le client est plus qu'un client. N'attendez plus et contactez notre représentant aux ventes Stéphane Morneau au 418-905-0318 ou par courriel à vente au pluriel à commercial. CFIXRimouski.com. Chez Pièces d'Auto du Golfe, nous possédons un nombre impressionnant de pièces automobiles usagées. Que ce soit pour vendre votre vieille voiture accidentée ou hors d'usage, vos pièces ou votre ferraille, nous sommes acheteurs. Par la récupération de vos vieux métaux dans le bac prévu à cet effet, nous sommes fiers de contribuer à la fondation du Centre hospitalier régional de Rimouski qui, chaque année, investit dans l'innovation et l'amélioration des soins et services de santé qui sont offerts dans la région. Appelez-nous pour une estimation. Pièces d'Auto du Golfe. 552 rue principale ouest, Saint-Anne-Clet.
Vous écoutez CFIX 93.3, qui diffuse également à Rivière-du-Loup à la fréquence 103.1.
Jusqu'à 15h, vous écoutez Sans réserve. Sans réserve. L'émission d'affaires publiques. Voici Luc Ferrandez.
C'est la troisième heure de l'émission. On la terminera en parlant des Espagnols qui se plaignent du surtourisme. On parlera aussi au directeur général de la Fondation Rivière parce qu'on voudrait savoir s'il est possible de prendre exemple sur la ville de Paris qui a mis le paquet pour nettoyer la Seine. Vous allez voir, c'est pas simple nettoyer la Seine, mais c'est pas simple non plus nettoyer le fleuve Saint-Laurent ou la rivière des Prairies. On parlera aussi à Nima Machouf, cet épidémiologiste que vous connaissez pour l'avoir entendu très souvent, notamment pour la COVID. Eh bien, elle va s'embarquer pour Gaza, sur un bateau qui sera affrété par des Québécois pour aller porter des denrées alimentaires et du matériel médical. Et puis, il faut savoir que Nima et son mari, Amir, sont iraniens. Alors, moi, je trouve ça dangereux, hein, c'est siffleux. Mais bon, ils sont extrêmement, extrêmement critiques du régime iranien. C'est pas comme des Iraniens qui auraient approuvé, par exemple, le bombardement d'Israël. Mais est-ce que les soldats israéliens vont faire la différence entre ceux qui sont critiques du raisonnement? En tout cas, on sait pas. Moi, je trouve qu'ils prennent des chances, mais en même temps, ils font preuve d'un courage extraordinaire. Je veux absolument leur parler. On commence avec Jean-Luc Brassard.
Je t'ai oublié mon souffle. Luc, avait lieu dernièrement, lundi, la 128e édition du Marathon de Boston. Et en plus des performances toujours exceptionnelles qu'on retrouve à cette compétition, il y avait un ancien joueur de hockey, Zdeno Chara.
Bien c'est un grand malade-là, il court, lui.
6 pieds 9 à 47 ans. Alors, non. C'est toute une pièce d'homme, oui. On se souvient de lui d'avoir presque arraché la tête.
C'est pour ça que je l'aime pas.
De Pacioretty dans la bande, là, à Montréal. Tout le monde se rappelle de ça. Mais on dit que c'est quelqu'un de très sympathique dans la vraie vie, Zdeno Chara. Et il est maintenant retraité des Bruins de Boston, mais il participe au marathon de sa ville d'adoption. C'est la deuxième fois qu'il le faisait. Et il en était à son 7e marathon. Mais ce qui est impressionnant, c'est évidemment la charpente de ce garçon. Là, 6 pieds 9 pouces. C'est une grosse masse au niveau biomécanique à déplacer sur une si grande distance. C'est vraiment impressionnant. On a vu Usain Bolt, entre autres, aux 100 mètres. Mais c'est une petite distance qui va chercher un système de puissance complètement différent de celui qui est sollicité lorsqu'on fait des marathons. Et il s'en est sorti de façon très honorable.
Ah oui?
Oui. 3h30 et 52 secondes. Évidemment, si vous regardez ça d'un œil distant et vous dites, ouais, ben, le marathon, ça se gagne en 2-2, 2-2, 2-4, peu importe, ou 2-6, ben, dites-vous bien que 3h30 là, pour le commun des mortels, c'est quelque chose d'assez exceptionnel.
Oui, ça se gagne en 2-4 par quelqu'un qui a un poids de 118 livres.
Ouais, le rapport poids-performance qui est toujours très impressionnant. On voit particulièrement au vélo là, des mini-gabarits de poulet, mais c'est très peu de masse à déplacer, donc alors que c'est tout à fait l'inverse pour Zdeno Chara. Et fait à souligner, c'est qu'il compte participer au marathon de Londres qui est dimanche prochain. Alors, temps de récupération quasi nul et puis...
C'est des bons genoux, hein?
Ben ça, c'est une autre chose qui est drôlement impressionnante. Avec toutes les blessures, il y a toujours des séquelles à toutes ces blessures.
Les blessures, c'est celles qu'il donnait aux autres. Là, ça, lui, son corps était moins sollicité.
Est-ce que tu as un petit parti pris ici, Luc?
Je l'aime pas.
dans sa vie, il a aussi fait un demi-Ironman, puis une course de 50 km. Alors,
C'est énorme.
C'est quelqu'un qui aime certainement souffrir un peu. Hein? Faut avoir le désir de se dépasser de ce côté. Mais ça me permet aussi de te parler que cette année, au marathon de Boston, c'était le 40e anniversaire de la course victorieuse d'André Vigée en fauteuil roulant. Il a gagné 3 fois Boston, André Vigée, en 1984, 86 et 87. Il a aussi gagné 4 fois le marathon du Japon. C'est un athlète paralympique, évidemment très titré, bien connu ici. 3 médailles d'or, 3 médailles d'argent, 3 médailles de bronze aux Jeux paralympiques. Et évidemment, il a été une source de motivation pour un paquet d'athlètes paralympiques, entre autres Chantal Petitclerc, sénatrice maintenant, là, qui a été grandement inspirée par André Vigée. J'ai eu l'occasion de le rencontrer à quelques reprises. Oui. Et c'était vraiment un gentil homme. D'ailleurs, il y a toujours, je pense, 4 à 5 boutiques maintenant qui sont spécialisées dans le matériel de fauteuil roulant. Il racontait toujours, il y avait toujours une bonne histoire, toujours sympathique envers tout le monde. D'ailleurs, Chantal Petitclerc racontait qu'elle, il parlait jamais. Là, il était toujours présent pour encourager ses pairs, mais parlait rarement de ses victoires, mais parlait davantage de ses contre-performances pour que ça puisse servir d'éducatif pour ne pas que le suivant fasse les mêmes erreurs qu'il a fait. Mais il y avait une histoire qui était particulièrement savoureuse, je pense, un de ses premiers marathons qu'il a fait, c'est dans le coin de Sherbrooke où il était natif. Et les organisateurs ne pensaient vraiment pas voir quelqu'un arriver en fauteuil roulant. Alors, ils étaient vraiment pas prêts. Puis lui, il a dit, comme d'habitude, parce qu'il s'est arrivé à quelques reprises, il a dit, je suis rendu, alors je le fais le marathon, que vous le veuillez ou non, moi je le fais. Alors, ils savaient pas trop quoi faire avec ça. Donc, ils l'ont fait partir peu de temps avant les coureurs ordinaires. Mais le problème, c'est que le marathon de Sherbrooke était particulièrement vallonné.
Ah,
Alors, il dit...
C'est quasiment impossible de monter ça en chaise roulante.
Mais c'est ça, c'était... Il perdait énormément de temps. Il se faisait doubler, puis finir par les coureurs. Mais il dit l'autre problème, c'était la descente de l'autre côté.
Tu dis, toi.
Et là, il fallait crier pour dire aux coureurs de se tasser parce qu'ils n'avaient pas des fauteuils adaptés pour pouvoir premièrement assumer une telle vitesse. Et aussi, chose qu'on oublie, mais ces fauteuils ne sont pas à l'abri de crevaisons ou de problèmes techniques. Et à l'époque, il n'y avait pas nécessairement de, on va dire, de mécanos qui suivaient ou qui étaient à proximité pour dépanner. Alors, il fallait qu'ils s'organisent pour, en cours de route, réparer les problèmes qu'ils avaient.
Dieu.
Et c'est arrivé à quelques reprises, justement, que malgré le fait qu'ils leadaient dans certaines compétitions, il y avait des petits accidents, il devait réparer, changer ses pneus lui-même, rembarquer sur le fauteuil et continuer pour essayer de rallier la ligne d'arrivée.
Mais moi, ce qui me frappe le plus dans tout ce que tu racontes, c'est l'image de la descente. Simonac!
L'histoire, là, lorsqu'il racontait ça, là, je me rappelle rire, parce que il racontait ça de façon tellement imagée où vraiment il devait crier, puis il dit les coureurs avaient peur, mais à un moment donné, ses mains n'arrivaient plus à arrêter les roues tellement qu'il y avait un phénomène d'inertie en descendant.
Wow!
Toute une affaire. Et évidemment, bon, on peut pas penser à Boston sans penser à Jacqueline Garraud, qui a gagné ce marathon en 2:34:28. Sauf que c'était à une époque, le 21 avril 1980, elle était la leader jusqu'à temps qu'elle réalise que il y avait une Américaine, Rosie Rose, qui surgit de nulle part
et
qui
lui
a volé la victoire. Ouais. La controverse qui en a suivi, elle était flagrante. Ça a pris 8 jours avant que officiellement l'organisation la disqualifie. Et d'ailleurs, il y avait quelques...
Mais je sais, est-ce qu'elle avait gagné plusieurs fois?
Bonne question, là, je l'ai pas dans mes notes.
Moi,
mais...
de mémoire, là, c'était comme un moment important. Là, le moment où elle a perdu contre cette Ruiz, Madame Ruiz, c'était un moment unique.
Oui, c'est ben évidemment c'est exceptionnel et d'ailleurs l'organisation l'a fait revenir à Boston pour lui redonner sa médaille ainsi que le gagnant masculin quelques jours plus tard qui est revenu pour la photo officielle également.
Okay,
et on avait entre autres on n'avait pas trouvé des passages de Madame Ruiz à certains segments de la course. Il y avait quelques caméras, il y en avait beaucoup moins à l'époque, mais il y avait quelques caméras qui filmaient pour on l'a jamais vu passer. Et après on l'a questionné sur des moments clés de la course et il y avait des grands passages qu'elle ne se rappelait pas. Alors on a fini par arriver à la conclusion. Mais pour la petite histoire, Madame Garraud, Jacqueline Garraud, qui habite dans les Laurentides maintenant, je pense qu'elle est massothérapeute d'ailleurs, et elle a pensé, 40 ans plus tard, retourner faire le marathon de Boston, mais ça tombait en 2020, et il y a eu les problèmes de pandémie, les retraites, puis elle s'est fait mal au genou un petit peu, puis elle a dit, c'est un signe de la vie, peut-être que mon corps n'est pas fait pour refaire un autre 42 kilomètres. Mais pour la petite histoire, Madame Ruiz, elle a été 2 ans plus tard, après son méfait à Boston, elle a été arrêtée après avoir détourné 60 000 $ de l'entreprise immobilière où elle travaillait. Et puis finalement, en 1983, elle a eu une autre arrestation l'impliquant dans une transaction de cocaïne, imagine. Alors, elle n'avait pas nécessairement feuille de route. Ouais.
Une espèce d'âme tordue.
Ben, peut-être, c'est dommage de voler mais elle n'a jamais voulu l'avouer jusqu'à la fin. D'ailleurs, le marathon de Boston, le plus vieux marathon annuel au monde, 1897, il a lieu toujours le troisième lundi d'avril, on l'appelle Patriot's Day. C'est pour la commémoration des premières batailles de la guerre de l'indépendance américaine. La première édition, il y avait 18 participants. Aujourd'hui, il y a une moyenne d'environ 30 000 participants. Il faut se qualifier, évidemment, pour la Boston, pour pas qu'il y ait trop de monde. 500 000 spectateurs à chaque année qui encouragent, évidemment, tous ces sportifs. D'ailleurs, cette année, on commémorait aussi le départ de la ville d'Hopkinton. Au départ, on partait d'une ville qui s'appelait Ashland, mais pour avoir la distance olympique parfaite, il y a 100 ans, donc, on a déménagé à Hopkinton. Et voilà, c'est écrit sur la ligne de départ, 100 ans, on commémorera ça cette année. Évidemment, tous se souviennent de cette bombe qui a explosé en 2013 sur le tracé.
Les frères Tchétchènes.
Oui, deux bombes qui ont explosé, qui a fait 3 morts, 264 blessés.
Ah, écoute.
Ça avait donné lieu à une poursuite policière assez impressionnée.
Ah oui, puis c'est à la fin, ils étaient cachés dans un bateau.
Dans un bateau, c'est ça.